ce moment est venu de reprendre des exposés. Donc, je donne maintenant la parole à M. Benoît Grévin.
Alors, pas de problème. J'en profite donc, j'ai gagné le droit pour faire un petit peu de publicité avant de commencer. Je vais parler beaucoup de Ars Dictaminis et Dictamen, comme ça m'arrive souvent. Et comme nous faisons dans quelques jours avec Anne-Marie Turcan-Werker, qui est parmi les invités, Francesco Stella, un grand colloque sur l'Ars Dictaminis à Paris les 5-6 juillet, et que ça n'arrive pas si souvent, c'est pas une matière qui provoque tant de colloques, je fais passer le programme. Il sera tout de même, d'une manière ou d'une autre, bien souvent question de rythme. Et donc, ceux qui sont intéressés peuvent demander des renseignements ou venir directement. Maintenant, nous allons changer radicalement, assez radicalement tout de même, parce que malgré tout, au Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, il y a pas mal de différences d'époque, de culture linguistique, de culture rythmique, et un petit peu certainement aussi de méthodologie. Alors, question qui devrait être certainement bête, je suppose que Pascal Bourguin va parler aussi beaucoup de cursus rythmique.
Non, je n'en suis.
Non, pas du tout. Je suppose qu'il y a des tas de gens qui sont très ferrés sur le cursus rythmique dans la salle, mais je voudrais tout de même savoir s'il y a des personnes qui ne savent, auxquelles le nom de cursus rythmique ne dit pas grand-chose, ou qui voudraient quelques explications rapides. Ça me permettra d'accélérer ou de retarder le propos. Est-ce qu'on a besoin d'un tout petit topos ?
Oui, allez-y.
Oui. Donc, je vais... vous intégrer ça. Alors, il s'agira de montrer, cette fois, en repartant de préoccupations d'un historien, mais tout de même relativement stylistique, relativement philologique, relativement linguistique et philologique, non pas d'un problème de détection du rythme, parce que là, le rythme est partout et on sait très bien qu'il y est, mais de réfléchir dans un mouvement dialectique un peu inverse à ce qui s'est peut-être passé ce matin, de la présence assurée de ce rythme qui ne pose pas de problème dans sa banalité, pour retourner du côté du sens, voir à quel point certains rythmes standardisés, omniprésents, extrêmement banals, influencent la pensée des rédacteurs et finissent par conditionner un pan important de la société. Alors donc, dictamen, cursus rythmique, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Nous parlerons surtout de XIIIe et XIVe siècle. Vous en avez là un exemple, je résume très rapidement cette histoire complexe et encore relativement mal connue par certains aspects, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents. Donc le cursus rythmique est un ornement de prose rythmée, de prose d'art, si vous voulez, dans une définition littéraire, de prose de majesté dans une vision plus politique, qui n'est pas spécifique du haut Moyen-Âge, qui était apparu à cette époque de basculement vers l'accent dont nous avons déjà tant parlé ce matin, du latin tardo-impérial, notamment dans les proses d'apparat, sous différentes formes, une ornementation de ces proses rythmées, où on doit en gros à chaque césure importante, à chaque respiration, à chaque ponctuation, si vous voulez, plus tard, rythmer le texte pour lui donner une saveur importante, sous différentes formes, qui a eu un destin, une ornementation qui a eu un destin très contrasté et très disputé entre le 6e et la fin et le 12e siècle, en gros. Il y a des périodes où les spécialistes se disputent énormément pour savoir qui, comment, dans quelle mesure et avec quel procédé utilisent ces procédés d'ornementation rythmique, de modulation du rythme de grandes proses d'apparat, par exemple politique, parce qu'il règne une telle diversité ou une telle anarchie, comme vous voulez, dans les pratiques, qu'on peut toujours arguer que ce qu'on croit être des effets de rythme n'en sont pas. Donc il y a une grande liberté, par exemple, vers le Xe siècle, pour juger un certain nombre de proses très raffinées et très construites rythmiquement. Les choses changent à partir du XIIe siècle principalement. C'est-à-dire que dès la fin du XIe et pendant tout le XIIe siècle, d'abord en Italie, ensuite en Europe, il va y avoir un mouvement important de reconstruction de la rhétorique centrée autour de la lettre ou de l'acte conçu comme lettre, du langage du pouvoir et de la communication, qu'on connaît sous le nom de dictamen ou ars dictaminis, l'art de composer dans le latin de l'époque, dictare, c'est plus composer que dicter. Cet art est associé très rapidement à la redécouverte des procédés d'ornementation rythmique, de ce cursus rythmique tel qu'il était utilisé dans l'Italie tardo-impériale du 4e, 5e, 6e siècle, en grande partie sous l'influence de la chancellerie papale. Et même si ce n'était pas le cas au début de l'histoire de ce nouvel ars dictaminis, ars de la composition qu'on associe généralement à la lettre, à partir de la seconde moitié du 12e siècle, l'ars dictaminis est la pratique systématique du cursus rhythmicus, tendent à être de plus en plus systématiquement associés. Des discussions complexes sur ce cursus apparaissent dans les traités de dictamen dans la seconde moitié du XIIe siècle, et en gros, dans les années 1180-1190, au moins en Italie, les jeux sont faits. La chancellerie papale a ressuscité une pratique extrêmement stricte et de plus en plus standardisée de cette ornementation rythmique des fins des respirations de la grande période latine. La chancellerie latine papale va être imitée un peu partout en Europe et va s'imposer comme la matrice du grand langage politique noble dans ce qui sera en quelque sorte un classicisme du dictamen au XIIIe siècle. Elle va être suivie notamment par la chancellerie impériale à l'époque où celle-ci s'est déplacée dans la Sicile de Frédéric II. Et comme vous savez, le XIIIe siècle est l'âge de la montée en puissance des grandes chancelleries étatiques, princières, un peu partout en Europe. Quand elles réinventent un langage administratif et politique, elles sont très lourdement influencées par ces pôles italiens. Je schématise bien sûr à l'extrême. Et on a donc un type d'ornementation rythmique qui s'impose. Pour un bon siècle et demi, nous sommes dans les temps du bas Moyen-Âge, ça se restreint un petit peu pendant dans à peu près toute l'Europe quand on veut imiter ce genre de langage d'apparat. Alors deux exemples très rapidement pour nous remettre dans l'ambiance et pour préciser un petit peu de quoi nous parlons. Ici, il s'agit, pour vous montrer aussi qu'il ne s'agit pas seulement du rythme de la lettre, comme on a souvent tendance à réduire l'ars dictaminis. Ici, il s'agit d'un appareil législatif, ce sont les lois de Frédéric II, qui sont totalement rythmés. Alors, je n'ai indiqué que quelques passages en cursus rythmique dans cette loi. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Hein, dans ce cursus standardisé, qui devient très banal après 1200 dans ces lieux d'écriture, on fonctionne uniquement avec trois possibilités de terminaison. Il s'agit simplement d'un jeu d'accentuation. Je passe sur la question des accents secondaires. Cursus velox, incrimine majestatis, un accent, quatre zones non accentuées, un accent fin non accentué, cursus planus penas eludunt, cursus tabus suadent et permittibus. Dans les discussions théoriques du XIIIe siècle, du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, on trouve des discussions beaucoup plus fines sur les différents genres de cursus, avec une terminologie qui n'est pas toujours celle-là, mais c'est celle que, en gros, nous utilisons tous, plus ou moins. Il y a des codes, proparoxyton, 4.
La première, c'est celle.
Paroxyton.
Coibuis et Udantur. C'est la première. Coibuis et Udantur, c'est Cicero.
Et nous voilà donc arrivés à une forme de cursus relativement standardisée. Donc là, nous sommes dans une loi. Qui propter paupertatem pena pecuniaria puniri non possum, pena pecuniaria mexolvendo, corporal filium liberare, non tamenitso saloco artamus invitus. Dans les discussions théoriques de l'époque, on trouve des mentions où on dit des discussions sur la façon de prononcer ces passages accentués qui montrent clairement une liaison forte avec ce qu'on entendait à l'église. Il y a dans Bénet de Florence, Candélabre par exemple, un passage fameux d'un traité de cursus où ce maître des années 1220-1230 dit « Non, je ne veux pas prononcer de cette façon avant la ponctuation, ça sera un peu trop comme on fait à l'église, on va finir par dire que nous pneumatisons. » Ce qui est tout de même très intéressant pour voir où on se place exactement. Alors, contrairement à ce qu'une vision un peu trop réductrice pourrait faire croire, ce style n'a pas été le style d'un siècle, cette invasion d'un cursus standard avec ses trois schémas directeurs et une prédominance de ce cursus velox, particulièrement spectaculaire. Nous sommes ici en plein XIVe siècle, nous sommes dans un endroit où on ne le soupçonnerait pas forcément, dans ce monument fameux de la littérature médiévale qui est le Philobiblon de Richard de Bury. Il est écrit en fait exactement dans le grand style d'apparat rhétorique de l'ars dictaminis tel qu'importé de l'Italie du XIIIe siècle, hein, la seconde grande vague de l'Ars Dictalis, et nous sommes exactement encore dans ce monde-là. « Iud, jitem teremur, fiebat ad nos desideratus accessus vasorum scientiae, et voratus multifarius voluminum optimorum, et hoc est quod presenti capitulus sum simus enarrare. » Bien sûr, ça modifie totalement la façon d'écrire. Il n'écrit pas « narrare » mais « enarrare » parce qu'il en a besoin pour le rythme. Premier petit conditionnement. C'est à cette multiplicité de conditionnements absolument mineurs en théorie, mais en fait omniprésents et structurant entièrement la langue, que nous allons nous intéresser. Alors, ce schéma complexe. Parce que pour travailler sur des sources et pour commencer à faire un petit peu de réflexion quantitative, sinon statistique, il faut bien savoir de quelles sources on parle. L'étude du dictamen, de l'Ars Dictaminis, de ces grandes proses rythmées du XIIe, XIIIe, XIVe siècle est en pleine redéfinition depuis au moins 20 ans maintenant. Et dans les grands mouvements importants, il y a le fait, et on en a beaucoup discuté ce matin pour la métrique et la rythmique, c'est important aussi du point de vue des proses rythmées, de trouver l'équilibre entre l'étude des théories. Et les gens s'étaient surtout concentrés sur les traités théoriques jusque dans les années 1990, et les traités théoriques sont arides et ne disent pas grand-chose et disent souvent des bêtises. Et la pratique, qui est au fond peut-être tout de même le plus important. Cette dernière décennie, pratiquement depuis 2000 surtout, on a beaucoup recentré l'étude de l'Ars Dictaminis sur la pratique, notamment en essayant de comprendre comment, à partir de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, un certain nombre d'instruments de travail, un certain nombre de summae dictaminis, comme il disait, de sommes de dictamen, avaient été formés à partir de différentes séries, collections textuelles, principalement des collections de lettres ou d'actes, souvent reflétant le travail en chancellerie, et comment elles avaient été ensuite, ce qui n'avait pas tellement été étudié avant, réutilisées pendant une période qui a pu s'étendre pour les plus vieilles sur 2 siècles, pour les plus jeunes sur 1,5 siècle, un siècle, comme matrice d'écriture par les notaires qui ont utilisé ces sommes. C'est-à-dire que l'idée un petit peu simpliste qu'on apprenait ces modes d'écriture rhétorique en classe et qu'ensuite on adaptait ça directement sans passer par une structuration mandale intermédiaire a été évacuée au profit d'un schéma nettement plus médiéval et rationnel, propédeutique, théorique, apprentissage à fond, par cœur, extrêmement long, sur des années, d'un ensemble d'exemples tout à fait volumineux, intégration et recréation sous forme, comme d'habitude, de transformation, de mélange textuel. Ces collections que vous voyez là, Pierre Debois, que vous connaissez tous, les lettres de Pierre Debois, les collections dites de Transmont-Clairvaux, mélange mi-papal, mi-cistercien, ces collections centrales qui sont moins connues en France, mais assez en Italie, la collection des lettres de Pierre de Lavigne, le matériel de la chancellerie de Frédéric II et de ses successeurs, les grandes collections de lettres papales du XIIIe siècle de Thomas de Capoue et Richard de Coffi, des collections un peu plus périphériques papales, Bérard de Naples, Clément IV. Ces collections ont circulé dans les mêmes manuscrits au XIIIe, XIVe siècle au fur et à mesure de leur formation, et elles servaient de base de données rhétoriques aux notaires des grandes chancelleries, principalement des chancelleries de type royal, des grandes chancelleries ecclésiastiques, archevêchés, sièges importants. Et c'est pour ça qu'elles sont assez intéressantes pour mener des enquêtes. Il y a évidemment des différences très grandes entre les différents textes de ces collections, différence qui s'explique notamment parce que les plus vieilles d'entre elles regroupent des textes qui ont été composés au cours du mouvement progressif de standardisation de ce cursus rythmique, au moment où on schématise toujours plus et on va dire nous n'utiliserons plus que les velox, les tardus, les planus pour cette orientation, mais où ça n'est pas encore bien rigoureux. On est un peu dans la position avant 1200, disons. Pierre Debois, par exemple, Transmont-Douze de Clairvaux, ça dépend bien sûr aussi des lieux. Ces modes ont progressé dans le temps et dans l'espace avec des variations selon les pays. Et puis, on a une phase centrale qui se passe effectivement en Italie autour de la chancellerie papale, mais avec une agrégation de ces matériaux siciliens, dits lettres de Pierre de Lavigne, dont je me suis tant occupé, comme certains d'entre vous le savent, qui a fermé véritablement le pôle de ce moment d'agrégation de modèles d'écriture, parce que c'est dans quelque sorte le classicisme de l'Ars Dictaminis, parce que c'est l'apogée de la lutte entre la papauté et l'Empire aussi, et que la propagande politique a été poussée très loin, et pour des tas de raisons, donc, on trouve extrêmement souvent ces trois collections centrales, deux papales, une impériale, dans les mêmes manuscrits. Et on a la preuve qu'elles sont les plus réutilisées par les notaires, par exemple, royaux français du XIVe siècle, quand ils veulent faire de grands préambules soignés dans ce style. Et puis, agrégation d'autres collections. Alors, une étude de ces collections, du point de vue de la structuration rythmique, n'est pas encore faisable parce que les éditions nouvelles scientifiques correctes sont en cours, parce qu'il y a des gros problèmes de circularité, parce qu'en fait, intégrer bien les problèmes de cursus permettrait une meilleure édition, mais on édite souvent sans réfléchir au fait qu'il faut corriger non pas seulement par rapport au latin, mais aussi par rapport au rythme, ce qui donne donc des risques d'édition décalés. Un problème de circularité sur lequel je me suis intéressé. Pour l'instant, donc, on travaille avec des prééditions personnelles, des banques de données de ce genre. Et on arrive assez rapidement, quand on se pose la question de l'usage du cursus, non pas pour obtenir des statistiques, mais pour voir ce qu'ils en font, à des schémas de ce genre. Alors, une parenthèse extrêmement rapide parce que nous avons peu de temps. Vous savez que, si vous vous y intéressez, que l'étude du cursus rythmique a été réservée surtout à des problèmes de discussion, d'authenticité, d'attribution, de séparation des textes. Mesurer le plus ou moins d'ornementation rythmique et la façon dont un écrivain utilise cette ornementation pour pouvoir dire non, ces lettres ne sont pas, exemple au hasard, les lettres d'Abélard à Héloïse, version numéro 2, si elles le sont, et ainsi de suite. Ce matériel dont je m'occupe est arrivé à une époque où le cursus était extrêmement standardisé et pour un certain nombre de décennies, il y avait toujours la même prédominance de cursus Velox par les mêmes acteurs, dans les mêmes endroits, pour créer des matériaux divers. Et donc, les spécialistes du cursus, qui sont déjà pas si nombreux, s'en désintéressent totalement parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'études statistiques qui ne serviraient pas à séparer quoi que ce soit, puisque tout cela est relativement homogène. Alors, la démarche ici est évidemment inverse. Il s'agit de profiter de cette homogénéité pour réfléchir au conditionnement exercé par cette omniprésence du cursus. Et aujourd'hui, nous nous occupons principalement de cette forme du cursus Velox, qui est le structurant le plus efficace parce que c'est celui le type de cursus le plus employé à cette époque-là dans le monde. Alors, un monde des chancelleries et des écritures en chancellerie qui peut très bien se retrouver à mi-chemin entre l'écriture de chancellerie qui intéresse les diplomatistes et quelque chose de beaucoup plus littéraire. Il ne faut surtout pas faire de séparation dans ce genre de contexte. Souvenez-vous de Richard Dubury, il s'était gavé de ce style, entre autres parce qu'il en avait besoin comme administrateur, comme juridicien, etc. Quand il voulait écrire quelque chose de plus littéraire, il est naturellement resté dans ce style ampoulé qui était encore la mode en Angleterre en 1340, alors qu'éventuellement ça n'était plus au même degré dans d'autres endroits. Alors, voilà une séquence qui arrive dans des actes relativement banals, des actes administratifs qui peuvent être des petits privilèges, des mandats, des choses comme ça, au moment vers l'injonction où on justifie le fait qu'il faut donner une récompense au clerc lambda pour qu'il travaille mieux, hein, ut promptius alimentur, pour qu'il soit un petit peu plus excité à travailler un petit peu plus rapidement dans leur travail de chancellerie. Et vous avez un certain nombre de variations qui se sont mises en place déjà vers 1250, qu'on trouve dans ces grandes sommes qui viennent donc, qui regroupent des textes de tout genre, des chancelleries papales, limitées du style de la chancellerie papale, ou de la chancellerie impériale. Promptius alimentus, strictius alimentus, fortius, efficacius, frequentius, excitentur, accingantur, ainsi de suite. Encore tout à fait banal, me direz-vous. C'est déjà important parce que du point de vue des diplomatistes, ça donne la clé de ces procédés de variation légers à l'intérieur de préambules ou de corps de l'acte de la même structure, pour lesquels en général au XIIIe, XIVe siècle, on a toujours le même cadre général, mais jamais exactement le même mot. Et on se pose encore la question régulièrement du pourquoi et du comment de ces mécanismes de permutation. Ils sont simplement dans la structuration du cursus qui les impose directement. Alors, ce n'est pas un processus du XIIIe siècle uniquement, c'est un processus qui a des répercussions. Vous avez ici la liste déjà vue tantôt, et vous avez là, en quelque sorte, un phénomène de répercussion mécanique à la chancellerie française un siècle plus tard, 1250, 1350. On a exactement les mêmes modes d'hybridation qui sont justifiées par le fait qu'on sait que les notaires du roi réutilisent ces sommes, et notamment les mêmes trois sommes contenues dans des manuscrits d'origine française qui les ont regroupées. Vous me direz, si c'est pour démontrer ce genre de choses qu'on utilise ces fréquences de cursus rythmique standard, c'est tout de même un petit peu ennuyeux au bout de 5 minutes, parce que la réflexion pour le sens n'est tout de même pas d'un niveau extraordinaire. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que, et là où nous entrons dans des territoires qui sont moins facilement explorables, c'est que ces problèmes de conditionnement par ce rythme du cursus velox, du cursus standard, ne se limitent pas du tout à des formules simples et à des combinaisons relativement stéréotypées d'actes administratifs et à des passages qu'on pourrait qualifier de non stratégiques du texte. Vous avez ici une séquence. Alors, il me faut réfléchir un petit peu pour trouver les points d'accroche pour commencer à faire ce travail. Mais en regardant un petit peu mon matériel, le matériel de mes petites bases de données personnelles, je n'ai pas eu de mal à détecter deux ou trois mots qui pouvaient donner des idées. Formules complexes, les pivoteries syllabiques, proparoxyton et l'organisation du discours. La formule la plus simple du cursus velox à cette époque-là, ce sont des proparoxytons par hasard ou par nature, en trois syllabes, qui vont être donc l'accroche d'un cursus. Ensuite, vous aurez un mot de quatre syllabes par oxyton. Sanguine occisorum, hein, du sang de ceux qui ont été tués. Par exemple, sanguine, un beau mot pivot qui va arriver dans tous ces ensembles de textes dans des positions assez différentes et pour dire évidemment des choses relativement différentes mais avec des récurrences. Et c'est là que ça m'intéresse relativement. Vous avez donc des textes de la somme de Pierre de la Ville, de celle de Thomas de Capoue et de celle de Richard de Beaufy qui étaient travaillés, lus, intégrés, digérés ensemble par les mêmes notaires à la fin du XIIIe siècle un peu partout en Europe. Les lettres sont contenus divers. Par exemple, les premières lettres, les trois lettres impériales, sont des lettres de récits de victoire de bataille. Gladio sanguine rubricarum, hein, et ils rougirent leurs glaives du sang des ennemis, securus sanguine saturavit, même topo, et il gorgea ses haches du sang des ennemis, ainsi de suite. Ensuite, dans les lettres papales, vous allez évidemment avoir des choses relativement différentes. Sanguine cancellare, sanguine purpuravit, sanguine rubricarum, sanguine consecravit. C'est très souvent dans ces thèmes de propagande papale majestueuse, Christ qui rachète l'humanité en la couvrant de son sang, avec toutes les variations possibles et imaginables. Là où il y a vraiment peut-être quelque chose de stratégique à utiliser ce genre de pivot sanguiné pour comparer les manières de créer ces structures, c'est qu'en fait, vous arrivez relativement rapidement à des créations de chaînes d'équivalence ou de quasi-équivalence lexicale qui vous donnent une clé extraordinairement efficace pour comprendre les procédés de variation à l'infini sur des thèmes compliqués utilisés par les notaires pour changer leur vocabulaire. Rubricare, saturare, maturare, cancellare, consecrare. Vous allez avoir une espèce de base de données extrêmement sophistiquée qui va indiquer plusieurs possibilités et plusieurs directions. Alors je vous ai mis quelques petits exemples qui vous prouvent que ce problème ne reste pas un problème limité à quelques grandes chancelleries de luxe, chancellerie papale notamment au XIIIe siècle. Vous avez la collection de Clément IV qui ne sont pas des grands dictaminats d'apparat comme ceux dont j'ai extrait les textes précédents, c'est-à-dire des lettres papales plus banales. On retrouve ces formules qui sont de plus en plus consacrées à la fin du XIIIe siècle. Entre parenthèses, c'est un réflexe naturel quand on est en face de ce genre de petit conditionnement de se dire ces formules sont banales et vous les retrouverez n'importe quand dans la nativité tardive, Cassiodore ou que sais-je, ou dans la nativité du XIe siècle. Non, pas tout à fait. Les premières personnes qui ont redécouvert le cursus rythmique, notamment Noël Valois, l'article fameux de Fondation, ont bien montré que quand la chancellerie papale au XIe siècle, XIIe siècle, recommençait à utiliser ce cursus, elle changeait dans un bricolage extrêmement subtil la plus grande partie de ces petites variantes de rhétorique habituelle, routinière, pour accorder son latin à ces mécanismes de substitution. On joue dans la dentelle, sur le velours, pardon, mais il ne s'agit donc pas de raisonnement par l'absurde qui pourrait être facilement approuvé par des contre-expériences qui mèneraient vers le 10e, 11e siècle. Les trois autres exemples, le philobiblone, j'en ai déjà parlé. L'exemple même vous montre qu'un lettré de choix sanguiné, Vernaban, peut trouver une combinaison plus littéraire, mais qui rentre exactement dans ce cadre, pour profiter du même procédé trouvé dans sa mémoire. Et puis, deux formulaires partant dans des directions non royales, non papales, communales. Un très connu, les Dictamina Rhetorica de Guido Faba, le monde de l'Italie communale, hein, qui fonctionne avec des variantes importantes tout de même sur le même genre de procédé dans les années 1240. Et puis, un formulaire français tout à fait provincial, mais très fameux pour les spécialistes de dictamen français, formulaire de Tréguier, où on trouve exactement le même champ de choses. Alors, oui, celui-là, j'ai peut-être un petit peu poussé sur le schéma. Il est compliqué, j'arrive vers la fin. Mais j'aime bien les PowerPoints. Vous avez donc ce sanguiné. Alors, réfléchissons simplement uniquement. On voit en fait, quand on essaie de départager un petit peu ce qui se passe, qu'on a une possibilité globale sanguinée plus formule verbale, où les notaires construisent soit avec les formules verbales actives habituelles, soit avec des variantes passives, soit avec des participes, et on passe très facilement d'un modèle à l'autre, hein, macula, nunc macula, tous. Bon, les formules passives ou pseudo-passives posent des problèmes spécifiques. Et puis, vous pourrez faire des travaux regroupement de champs lexicaux et c'est ce qui est peut-être le plus important, nous permettrait un petit peu de sortir d'une analyse strictement lexicale, fréquence de telles paroles, pour passer à une analyse lexico-syntaxique. Et là, tout va tourner donc sur il nous a racheté, il nous a lavé, et il a annulé, ainsi de suite. Et puis vous avez les autres possibilités, alors seulement trois parmi beaucoup, substantifs au génitif, qui font partir vers d'autres directions, les directions de la bataille ou du martyr, hein, Occisorum, les directions de Christ, Nazareni, Salvatoris. Sanguiné, c'était facile, mais nous pouvons très bien, il y a des dizaines et des dizaines de vocabulaires stratégiques utilisés dans cette rhétorique, qui permettent de lancer des enquêtes sur ces procédés de substitution et de recréer les nuages lexicaux dont se servaient les notaires, à condition simplement de préparer le terrain en sélectionnant des vocabulaires intéressants. Alors, vinculum, c'était évidemment extrêmement tentant, vous savez, dans la rhétorique de l'Église et dans la rhétorique papale, dans la rhétorique de la féodalité aussi, le poids que vinculum peut avoir dans la rhétorique en général. En prenant les quelques milliers de lettres et d'actes qui se trouvent dans cette base recomposée, vous obtenez tout un jeu. Alors, même chose, soit des substantifs, caritatis, juramenti, soit des verbes liberare, alligati, astringenda, innodantes, copulavit, qui vous permettent de recréer une partie de ces automatismes, une partie de ces jeux de substitution. Tout l'enjeu, et je crois que c'est fini, tout l'enjeu, je vous rassure, est d'arriver à mesurer exactement en quoi ces notaires sont conditionnés par cet apprentissage rhétorique qui les a fait, en se gavant de lettres, d'actes, intérioriser ces procédés de multiplication, et comment ce phénomène s'est créé ou déplacé, parce que c'est un phénomène qui succède à beaucoup d'autres phénomènes du même genre au Moyen-Âge et au Moyen-Âge central. Et tout l'enjeu serait d'arriver à une meilleure connaissance de ces phénomènes, tout en ne jetant pas une 550e fois, comme historiens et linguistes sont si tentés de le faire, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que l'idée à retenir n'est absolument pas que les notaires n'ont pas de cerveau, qui sont des espèces de machines informatiques avant l'heure, et qu'ils recréent ad libitum. Vous pouvez concilier naturellement une liberté, une inventivité d'écriture avec ce genre de problème. Le problème, et je terminerai par ça parce que je pense que c'est une bonne équivalence assez frappante qui peut tout de même susciter un petit peu le débat, c'est que nous devons peut-être penser ces proses rythmées dans leur mécanisme à la fois extrêmement simple, cursus standard, toujours velox, 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 est si raffiné, si compliqué, comme un mode d'écriture semi-formulaire qui, par certains côtés, certaines applications, a autant à voir avec la poésie formulaire de type homérique et ses procédés de substitution, avec les procédés des littératures formulaires, qu'avec les langages administratifs ou politiques que nous voyons généralement très écrits, très froids, auxquels nous les associons. Encore une fois, j'en discutais avec Pascal Bourguin ce matin, il ne faut pas dissocier au risque de catastrophe trop radicalement le monde de l'oralité et le monde de l'écrit. Hein, c'est un monde du conditionnement mémoriel, à la fois plein d'oral et d'écrit, et ça change beaucoup de choses, je pense, à notre façon, à la façon dont nous devons l'envisager. Merci.